Bonjour à tous, à toutes et aux autres, bienvenue dans le débat d'octet, le dernier du mois d'avril d'ailleurs, on va bientôt fêter notre moisiversaire de Pod Radio. Aujourd'hui... Pardon, oui.
Non, celle-là, j'étais obligé de la faire. Qui vient de moisi, le moisiversaire.
Oui, qui vient de moi. Sinon, vu que tu t'es introduit tout seul, Pof, ben voilà, je voudrais vous présenter Pof, que vous connaissez déjà. Mais surtout, aujourd'hui, nous avons un invité dont, que tous les plateaux virtuels s'arrachent. C'est Mathieu Blanco de MacJT. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà,
bonsoir
alors,
à toutes et à tous.
Je te laisse allez, 5 minutes pour faire ton auto-promo.
Ouh, 5 minutes.
Ah, non, mais vas-y, tu peux prendre ton temps.
Eh bien, j'anime le podcast MacJT, qui est disponible sur macjt.fr ou sur iTunes. Et puis, un peu comme Pod Radio, on traite de l'actualité Apple, mais aussi de tout ce qui est nouvelles technologies, mobile, iPhone, beaucoup. Et iPod Touch. Et cette semaine, il y a eu deux vidéos, la couverture de la manifestation anti-Adopi de Lyon, un petit interview. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à aller découvrir ce podcast sur le site directement et à vous y abonner, à rejoindre la page Facebook et à me suivre sur Twitter. Voilà.
Sachant que, et tu l'as oublié, on peut te suivre sur Pod Radio, hein, je te rappelle quand
et
même.
Et c'est vrai que
tu fais partie des partenaires et que si vous savez pas taper MacJT dans Google, mais que vous avez Pod Radio en favori, tu es
sur
la homepage.
Pod Radio.
Voilà. Donc vous cherchez le MacJT. Pardon ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Il y a une grosse image sur le site.
Voilà, avec marqué MacJT dessus. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, messieurs, nous avons deux gros sujets à troll, j'ai envie de dire. Donc déjà, je vous rappelle les instructions que je vous ai données tout à l'heure. On va essayer de développer le plus possible l'argumentation, l'histoire de ne pas passer pour des gros Apple fanboys, que nous sommes quand même.
Exactement.
D'une certaine partie.
Toi,
t'adores Windows. D'accord, mais justement, la première partie, c'est les Mac contre les PC, mais la discussion portera autour du prix. C'est-à-dire que, comme il y a eu quelques pubs de Microsoft, qui justement attaquaient là où ça fait mal au Mac, c'est-à-dire au niveau de l'étiquette, voilà, c'est ça. Et en plus, en ce moment, en temps de crise, c'est pas vraiment la bonne période pour être cher. Vu que j'en parlais des pubs, Pof, est-ce que tu pourrais nous décrire le principe de ces pubs ?
Le principe de ces pubs, alors du peu que j'en ai vu, hein, parce que là tu me prends un petit peu dépourvu, celle que j'ai vue en tout cas, c'était une jeune fille qui devait trouver un ordinateur d'une certaine taille d'écran. Alors je me souviens plus laquelle c'était, il me semble que c'était 17.
C'était la première,
et,
c'était Lorraine.
Voilà, Lorraine.
Cette jeune fille devait trouver cet ordinateur à moins de 2000 dollars, il me semble. Et le problème, c'est qu'elle ne trouvera jamais un ordinateur de type Mac à ce prix-là, sauf d'occasion.
Avec et encore d'occasion, franchement, je suis même pas sûr qu'elle soit capable de trouver. Ou alors elle trouvera un PowerBook G4. Hein.
Ouais, ouais, voilà.
Avec la dalle 17 pouces pétée. Hein.
Avec des vieilles traces de repas dessus et tout.
Voilà, c'est ça aussi. Donc, Vas-y.
On pouvait voir cette jeune fille qui cherche à faire des économies mais qui roule en New Beetle décapotable. Donc déjà ça te plante un peu le décor.
Oui, c'est clair.
Et cette première pub, elle était assez surprenante parce que la première chose qu'elle va faire, vu qu'elle veut acheter un nouvel ordinateur, c'est qu'elle se rend dans un Apple Store. Ah, ça reste quand même une pub pour Microsoft. Et donc après,
c'est vrai que si ça peut paraître un peu, comment dire, un peu se tirer une balle dans le pied de la part de Microsoft, la phrase qu'elle a eue derrière, elle était, je sais pas quelle est l'agence de marketing qui lui a dit de dire ça à cette actrice, oui, parce qu'en plus il paraît que son métier c'est actrice,
Donc, oui, c'est une actrice.
Donc finalement, ça pète un peu le principe de télé-réalité quand même, sur lequel est basée la pub. Mais elle sort derrière. Non, mais je pense que je suis pas assez cool pour être une personne qui utilise un Mac. Et là, j'avoue que c'est une petite phrase qui tient du génie. Quoi.
Oui, mais quand vous devez acheter un ordinateur, la première chose à faire, c'est d'aller dans un Apple Store et si vous vous sentez assez cool, vous achetez un Mac.
C'est ça.
Ouais, c'est vrai que ça
colle. Je peux le prendre dans ce sens-là aussi. Hein.
Et puis c'est bien que. Eh ben non, mais quelque part, je tiens à dire, si à 20 ans, on n'a pas assez de sous pour s'acheter un Mac, on a tout de même raté sa vie. Enfin, c'est. Pardon, c'était obligé.
Mais tu dis ça, il y en a beaucoup, à mon avis, qui à 20 ans, qui n'ont pas assez de sous pour s'acheter un Mac.
Non, mais
et beaucoup
sais,
qui regrettent.
Surtout
qu'elle voulait quoi? Elle voulait un écran 15 ou 17 pouces,
elle
à moins
17
de 1000
pouces.
Euros.
Ouais.
Bah, qu'elle achète un Acer à 300 euros, alors un 17 pouces avec 4 gigas de RAM, et puis. Non, mais après, c'est ça. Après, il faut. Comme la deuxième pub, elle est. Comment dire, la première pub avec Lauren, c'était je suis pas assez cool, et puis l'écran que je veux, enfin, à 1000 euros, il est pas assez grand. Et le deuxième, c'était beaucoup axé justement sur généralement ce qu'on entend les gens qui achètent des PC. C'était un jeune, je sais plus comment il s'appelle, qui voulait une bête de course. Lui, ce qui l'intéressait, c'était vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur. Cette pub, elle est très rigolote. Parce que quand tu cherches un petit peu à regarder, t'as le mec qui dit « Ouais, moi, je veux un PC avec beaucoup d'autonomie, qui soit transportable, et, avec beaucoup de puissance à l'intérieur, et puis j'en ai rien à foutre de la marque. » Et au final, il se tape un frigo de chez HP, mais il a chié.
Vraiment, c'est vrai que c'est quand même un peu ça, quoi.
C'était en plus, franchement, même les sites de pro-PC ont dit « Franchement, c'est un mauvais modèle, c'est un des pires modèles de chez HP. » Et il se tape un frigo avec une autonomie pourrave, et quand tu comparais techniquement ce qu'il y avait à l'intérieur par rapport à un MacBook, le MacBook était largement dessus, donc tout l'argumentaire en fait était pété. Donc c'est simple, le principe de ces pubs, c'est pour vraiment la grosse masse. Si tu commences à gratter légèrement un peu.
Il y a eu une parodie que j'ai vue sur d'autres sites, dont je crois Pumcast, hein, que j'ai vu, qu'on peut citer. On a le droit de le citer. Hein.
Oui, oui, on peut citer, c'est de la convient quand même, soyons pas à vache.
Et c'était cette pub avec ils avaient pris un SDF.
Homeless Frank.
C'était exactement le même principe. Ils avaient pris un SDF et en fait le SDF il disait mais non, mais je veux pas un PC et tout. Non, mais c'est trop pourri et tout. Et finalement il se retrouvait avec le PC, mais il s'en servait comme couverture en gros.
C'est ça.
Ouais, c'était ça. C'était. Je suis peut-être
sans abri, mais je suis pas stupide.
Assez stupide pour prendre Vista ou un truc comme ça. C'était excellent.
Mais justement, on parlait des performances d'un ordinateur, et donc il y a deux choses. La première, c'est que c'est vrai que à l'époque où je n'étais pas encore passé du côté obscur de la force, aujourd'hui je parle du point de vue des PC users, hein, d'accord. Que les choses soient claires, je serai donc Mac fan, l'avocat du diable, forcément. C'est un peu mon rôle, hein, vu que à mon avis, partir sur faire des compliments au Mac, je pense qu'on n'aura pas trop de problèmes. Donc, je vais être là aussi pour casser un peu du Mac. Donc, avant que je passe du côté obscur de la force, je m'étais acheté un Dell. Et c'est vrai que j'avais regardé plus les performances que le reste. Et je m'étais retrouvé avec un P4 haute température, hyper-threading. Vous savez, ceux qui ont les petites lettres HT sur le côté. Voilà. Je m'étais retrouvé quand même avec un ordinateur qui faisait un petit 3,5 kg et qui avait une autonomie de 1h15. Voilà. Alors, il était rapide
pour
l'époque.
Quand tu tapais des textes.
Pardon ?
Quand tu tapais des textes, pas quand tu lisais une vidéo.
Quand je lisais une vidéo, non. Et c'est quand même très con d'avoir un ordinateur portable pas foutu de lire un DivX en entier quand même sur la batterie. Hein.
Ouais.
Parce que
ouais.
C'était vraiment ça. Mais c'est vrai que j'avais un ordinateur transportable qui avait une sacrée puissance pour l'époque, hein, quand même. Hein. Vu que c'était en 2003 que je l'avais acheté.
Mon crackbook, hein, crapbook, le magnifique
crapbook.
Voilà, que j'ai acheté donc en octobre 2008. C'était en octobre 2007. Mais il avait aussi maximum, on va dire, 1h20, 1h30 d'autonomie, hein, dès l'achat. Et vers la fin, d'ailleurs, il avait plus du tout d'autonomie. Et là, d'ailleurs, il s'allume même plus. Mais.
Et la deuxième chose que je voulais dire sur les performances, avant qu'on dévie,
il était pas lourd comparé aux autres.
Ouais. Avant qu'on dévie complètement sur un autre sujet, le deuxième truc que je voulais dire, c'était que justement, vu qu'on parlait de performance, j'ai fait une petite étude cet après-midi. Oui, je sais, j'étais censé travailler cet après-midi, mais mon patron ne regarde pas mon écran. D'ailleurs, j'espère qu'il m'écoute pas, sinon demain je suis dans la merde.
Attention, il y en a qui se sont fait virer pour.
Non, je ne peux pas gérer, je suis stagiaire. Donc, j'ai pris un Dell. Hein, alors, le truc, c'est que je suis allé sur le site de Dell. C'était déjà pas facile de choisir parmi tous les modèles.
Oh, c'est horrible, le site de Dell, il est horrible. J'ai dû l'utiliser durant 2 ans en entreprise. Waouh.
Quand je m'étais acheté mon ordinateur, oui, je raconte beaucoup ma vie. Je m'étais pas mal renseigné et jamais je tombais sur le même ordinateur 2 fois, quoi. C'est-à-dire impossible. Que j'avais même du mal des fois à retrouver le modèle que j'avais trouvé, que je trouvais intéressant, tout ça. Puis ça manque un peu d'explication aussi sur quel est l'intérêt de tel processeur par rapport à tel autre. Ce qui fait que j'aurais pu prendre un Celeron M avec moins de gigahertz, mais comme j'avais vu un Pentium 4 qui avait plus de gigahertz, je me disais il est mieux. Alors que c'était pas forcément lié. Mais il n'y avait rien pour l'expliquer. Enfin, ça c'est juste une parenthèse. Donc, revenons. Je suis allé chez Dell et je me suis dit, tiens, déjà, je vais commencer par prendre un écran 13 pouces 3. Ce qui m'a bien aidé vu qu'il restait plus que 4 modèles après. Hein. Donc du coup, forcément,
ça oui, 13 filtré.
Pouces, 13 pouces 3, pour eux, c'est de l'ultra portable, hein, quand même. Enfin, j'exagère, mais c'est presque ça.
D'accord.
Donc, l'histoire de ne pas faire de pub, et surtout parce que j'ai oublié de le noter, je vous dirai pas quel type de Dell Studio c'est, parce que c'est un Dell Studio, si je me rappelle bien. Bon, toujours est-il qu'il a un Intel Core 2 Duo à 2,4 GHz, avec un bus de 1066 MHz. Ensuite, dessus, il a Vista Edition Familiale Premium SP1 Authentique. Il a donc ce fameux écran de 13 pouces 3 de 1280x800 qui m'a d'ailleurs aidé à le trouver. Il a une carte graphique Nvidia GeForce 9400MG. Alors le G, je sais pas d'où il sort, mais peu importe. Il a 3 gigas de mémoire vive, avec un bus de 1067 MHz.
Tu m'étonnes, t'as plus de batterie à bout d'une heure.
Ah non, mais là, l'autonomie n'était pas indiquée. Ensuite, il a 250 gigas de disque. Et il a un graveur CD logique en plus en slot-in. Donc c'est bien parce que ça nous rapproche justement d'un Intel Core 2 Duo à 2,4 GHz avec macOS 10 Léopard, avec un écran panoramique brillant. Alors là après il y a les pour, les contre, peu importe. Donc, qui par contre est rétroéclairé par des diodes LED. Petite première différence, il a une Nvidia GeForce 9400M. Alors lui, il n'y a pas le petit G après, alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, je ne suis pas sûr, avec 256 MO de mémoire partagée. Bon, à mon avis, comme l'autre, hein, je suppose. Ensuite, que 2 gigas de mémoire vive. Et là, la petite différence, c'est que le bus de la mémoire vive n'est qu'à 1066 MHz au lieu de 1067.
Ça change rien.
À mon avis, ça change rien, mais ça doit venir du fait qu'Apple doit tronquer, tandis que Dell doit arrondir. C'est-à-dire, à mon avis, c'est 1066666. Et donc, du coup, Dell, ils mettent 1067, et puis Apple dit, ouais, 1066, ça fera bien l'affaire, le reste, on s'en fout.
Non, je vais être obligé d'abandonner Apple et d'aller acheter un Dell, hein, s'ils ont 1 MHz de plus.
Ça ne doit pas changer grand-chose. Ils ont un disque dur de 250 gigas. Là, ils précisent la vitesse de rotation, 5400 tours minute, alors que l'autre, c'était pas précisé chez Dell. Et il y a un super drive 8 fois. Là, la vitesse d'écriture est marquée, alors que chez Dell, c'est pas marqué. Mais bon, c'est le genre de choses.
Il me semble que c'est le maximum 8 fois, non ? Pour les DVD.
Je sais pas, c'est possible. C'est possible. Après, surtout.
Je ne crains jamais de toute façon.
C'est pareil.
Petite parenthèse, vous utilisez souvent votre lecteur, vous ?
Bah, pour être très exact, en fait, il se trouve que le slot-in de mon iMac se trouve juste à 2 cm de l'étagère sur le côté. Donc, c'est pour te dire si c'est le genre de choses dont je me suis rendu compte. Parce que là, tu viens de m'y faire penser, tu vois. Donc, non.
Écoute, moi je pense pas, j'ai dû l'utiliser 2 fois pour mettre un CD d'Ubuntu et puis un CD de Windows quand j'ai voulu installer un jour.
D'accord, c'est un truc que je demande comme ça, et puis effectivement tu te rends compte que les gens se servent
Le CD d'Ilef 09 aussi.
Voilà, c'est ouais. Ça.
C'est tout.
C'est pour les mêmes occasions dont je m'en suis servi. Mais...
Et l'install encore, donc, tu peux ne pas t'en servir si t'as un time machine, parce que de toute façon, quand t'as un problème, tu restores 2 jours avant. Voilà. Chose que je n'oserais jamais faire. J'oserais jamais faire sur un PC, ça, restaurer 2 jours avant, parce que si c'est pour se retaper les mêmes problèmes.
Tu restes en minimum 2 mois avant, parce que comme ça, t'es sûr qu'il y a vraiment rien.
Ouais. Enfin bref, toujours est-il, et là, c'est le moment où je vais péter du mic. Oui, je vais y prendre un malin plaisir en plus. C'est que le Dell est à 999 euros et que le MacBook dont je parlais. Vous l'aurez sûrement reconnu si vous connaissez le site d'Apple par cœur, sinon malheureusement vous ne l'avez pas reconnu. C'est le haut de gamme de MacBook. Donc celui à 1499. Celui avec le petit clavier rétro-éclairé et tout, là, enfin... bref, le MacBook semi-pro, j'ai envie de dire d'ailleurs, parce qu'il ressemble un peu à ça. Il y a quand même 500 euros de différence sur ces deux modèles.
Alors, bon, est-ce que tu comptes le prix de la petite LED qu'ils mettent dans la pomme derrière, parce que
très importante.
Ça doit faire une grosse différence. Non, mais sérieusement, le Dell en plus, c'est pas un entrée de gamme. Je veux dire, c'est pas quelque chose sur lequel ils ont essayé de tirer les prix. D'accord ? Donc, pour le prix d'un MacBook d'entrée de gamme, on a les performances d'un MacBook haut de gamme. Oui, si c'était dans le bon ordre. J'avais un petit doute là. Donc, franchement, la finition en plus, elle est pas mauvaise. Je veux dire, de ce Dell Studio, c'est vrai que l'un est en aluminium, l'autre est en plastique, mais ça vaut pas.
Déjà, ça change pas mal de choses là.
Pardon ?
À mon avis, si tu poses l'un à côté de l'autre allumé, il y a quand même un certain fossé entre les deux.
C'est-à-dire ?
Je pense. Si tu poses ne serait-ce que le Dell Studio que je connais bien, parce que tout ce qui est studio et les gammes professionnelles, j'ai dû en acheter à la pelle, et un MacBook à côté. Je pense que si déjà tu retires ils en mettent combien ? Je crois qu'ils en mettent une vingtaine. Les vingtaines d'applications démo qui te foutent à l'intérieur pour baisser les prix, justement. Tu les retires. Tu rajoutes le prix de ton antivirus. Tu rajoutes le prix de...
Attends, l'antivirus, il y en a des gratuits.
Oui.
Des gratuits, des antivirus. Il y a AVG.
Il y a Avast.
Avast, peut-être. Il y a Antivir. Je veux dire, le prix de l'antivirus, maintenant, il y a des solutions alternatives.
Mais parle pas d'antivirus gratuit à des entreprises, parce que les entreprises, elles te font « Non, mais si c'est gratuit, ça va pas marcher. » C'est un truc fiable.
En entreprise, t'as pas le droit d'utiliser les versions gratuites.
Oui, c'est parce qu'elles sont pour l'utilisation personnelle uniquement.
Si maintenant t'avais à prendre le Dell, à le faire en métal, dans une coque unibody, dans un procédé tout nouveau, de mettre un écran LED, de rajouter à l'intérieur une suite logicielle, de faire en sorte de pas devoir mettre 40 000 logiciels démo, c'est de la sponsorisation. Ouais. Je pense que tu arrives au 1500 ou proche. Alors,
c'est
1004.
C'est quelque chose que personne ne pense, mais t'as aussi le coût du procédé de fabrication qui est tout nouveau. Et aussi le gros sponsoring qu'ils font sur les PC Windows.
Non, mais je crains que vous n'ayez pas compris ma question en fait. Là, vous me parlez effectivement de coût de fabrication. D'accord ? Moi, je parle d'intérêt pour le consommateur. C'est-à-dire que la finition en aluminium, d'accord ? C'est vrai, c'est beau, c'est pratique, c'est même solide, si vous voulez. Mais
c'est surtout ça qui est génial.
Oui, mais pour l'utilisateur lambda, pour l'utilisateur lambda, il voit pas forcément l'intérêt directement. D'accord ?
Ouais. Ça,
pour l'écran, en revanche, j'ai fait des calculs, j'y ai pensé, et ça, je l'ai fait exprès de pas le mettre dans les notes de l'émission. C'est que, en fait, ça coûte que 100 euros de passer à une dalle éclairée par des LED.
Bah c'est pas mal 100 euros.
Oui, ça fait quand même 400 euros de différence. Pour l'instant, la seule différence dont tu m'as parlé qui peut m'affecter, moi, en tant que PC user convaincu, d'accord ? Ouais. Aujourd'hui, je suis convaincu. Le seul argument que tu m'as sorti qui est intéressant, c'est la dalle LED. C'est vrai que si l'écran est meilleur pour la même diagonale, c'est intéressant. D'accord.
L'écran est meilleur et puis tu gagnes en batterie. Tu pourras voir ton DivX en entier.
Oui, mais là, la batterie, il n'y a pas d'autonomie de données. Donc malheureusement, j'aimerais pas qu'on commence à partir de principes dont on n'a pas la preuve aussi. Donc je ne sais pas si la batterie est mauvaise ou pas.
La question, c'est aussi combien ils font payer le système d'exploitation dans le prix.
Mais peu importe. Le système d'exploitation, tu le payes bien quand tu achètes un Mac. Tu l'as fourni avec. On est d'accord que c'est pas le même, mais grosso modo, t'as un système d'exploitation.
Mais par rapport au prix qui est au gagnant, il est dans le prix, parce que s'il se trouve, il est moins cher quand il est inclus dans un ordinateur Windows, et il est plus cher, il est pas plus cher, mais il est au même prix qu'on pourrait l'acheter seul sur un Mac. Bon, ce qui serait étrange.
Je comprends pas.
C'est une
question
que je pose.
J'ai pas compris ta question en fait. C'est un peu le problème.
Est-ce que le prix d'un système d'exploitation est différent quand tu l'achètes seul ou quand tu l'achètes avec un
Ah
ordinateur?
ben bien
Les
sûr, t'as la
deux.
version, t'as plusieurs versions, t'as la version magasin, t'as la version
Ouais, la
OEM.
version EM, voilà.
Ben justement, la question c'est est-ce que sur les Mac, ils te mettent pas, ils t'incluent pas dans le prix du système d'exploitation comme si tu l'achetais en magasin, alors que pour les versions de Windows, ils te le mettent à un prix ridicule. C'est pour ça que c'est moins cher, peut-être. Après, va savoir, c'est une question que je pose comme ça, je ne connais pas du tout comment sont pris
Je
en
pense
compte
pas
les
que le
prix.
consommateur qui a besoin d'acheter un ordi se pose vraiment cette question, parce que de toute
Voilà,
façon,
parce
on
que
a
de toute
besoin du
façon,
système.
s'ils commençaient à se poser la question du système, ils prendraient un ordinateur sous Ubuntu, peut-être. Tu
Voilà,
vois, s'ils commençaient à
ça
s'intéresser au
aussi.
système. D'ailleurs,
Mais
en
de
parlant
toute
de ça, je tiens à faire un aparté sur Dell, et justement Ubuntu. J'étais très content et ça avait vraiment augmenté le comment dire, améliorer l'image que j'avais de Dell, quand ils nous ont sorti les PC open source.
Ouais, moi
Où
aussi.
justement il y avait des bons PC, enfin des pas mauvais quoi, qui étaient fournis avec Ubuntu, et c'est vrai qu'il y avait une différence d'une centaine d'euros à peu près entre le modèle avec Ubuntu et le modèle avec Windows Vista, la première version quoi, donc c'est la. Ah, évidemment il y a trop de versions, du coup je m'en sors pas.
Basique.
Voilà, la Home
Ouais, c'est
Basic.
la basique.
Donc ça faisait une petite centaine d'euros de différence, ce qui vaut le coup quand tu as une licence d'XP et que de toute façon tu vas installer XP dessus. Mais même, je trouvais ça pas mal, même si c'était au fin fond du magasin, qu'il fallait vraiment savoir pour y aller. Et maintenant, ils
C'est
ont
vrai
tout
qu'il
enlevé, il n'y a plus que des netbooks, il n'y a plus que les Dell Mini, là, les petits.
y a... Ouais,
Ouais, c'est pas
c'est vraiment
terrible.
dommage. C'est
Ah,
vraiment
franchement, ouais.
très très dommage. Parce qu'ils avaient fait, ils avaient, bah, le fait d'avoir une marque qui était numéro 1 et puis qui est passée numéro 2, enfin, un très grand nom qui commence à s'ouvrir et à faire des modèles complètement compatibles, testés par les ingénieurs qui font les ordinateurs, avec les drivers, avec tout ce qu'il faut
Ben oui,
dedans.
voilà, parce que c'était ça la force aussi, c'était que
Bah
t'achetais
voilà.
un système Ubuntu dans les mêmes conditions que n'importe quel autre, c'est-à-dire un système qui marche, qui est fonctionnel, qui est installé, et qui du coup donne plus confiance aux consommateurs éventuels, quoi. Donc c'était pas mal. Et
Ouais.
bon, on va éviter de trop partir sur ce sujet de Dell et l'open source, ça sera peut-être d'ailleurs le sujet d'un débat d'octet dans pas longtemps, ça pourrait ne pas être inintéressant. Revenons sur ces 500, sur ces, bon, alors, je vais t'accorder quand même 400
400
euros de différence, si tu
400
veux.
euros de différence.
D'accord. Mais pour le consommateur lambda, donc vous êtes d'accord, le consommateur lambda, il n'est pas censé forcément être bien calé en informatique, d'accord? C'est la personne qui veut un ordinateur surpuissant pour faire Word, Excel et aller sur Internet. D'accord?
La personne lambda, quoi.
C'est ça, mais c'est le nombre de
Celui qui veut
personnes.
4 Go de RAM parce qu'il y a un pote qui lui a dit que c'était bien, alors que ça sert à rien pour son usage.
C'est ça,
Exactement.
voilà. La personne, pour elle, le Mac est toujours plus cher. Donc, du coup, ces 500 euros de différence, est-ce que finalement, il y a un. Enfin, ces 400 euros de différence, est-ce qu'il y a un moment où ça se différencie?
Ouais, il y a juste besoin de se mettre sur la machine.
Ouais, voilà, c'est l'utilisation parce que, évidemment, n'importe quel PC user qui a jamais touché à un Mac, tu lui montres les trucs, il te dit ouais, c'est joli, mais c'est quand même vachement cher.
C'est
Mais
ça.
quand tu lui fais utiliser un Mac pendant peut-être même pas une
Même pas
demi-semaine
une
ou une
journée?
semaine, ouais, mais
Bah,
une
si, une
journée, t'as un
journée,
certain
c'est le temps
soin.
qu'il faut pour s'adapter quand même, Mathieu. Donc,
Ouais,
du
mais
coup, il risque, à la fin de la journée, de commencer juste à faire ses marques dessus. Tu le laisses 2 jours
Voilà,
dessus, là,
donc
par contre, ouais, le deuxième jour, il est à
Ouais, il
fond et
aime bien.
il
Et
lâche
pour les
plus.
plus récalcitrants, une semaine, tu vois. Tu leur mets une semaine. À la limite, tu leur mets même un double écran. C'est un truc en plus. Je sais pas pourquoi, ça marche bien.
Ouais,
Mais
c'est
quand
clair.
tu les mets une semaine avec un Mac en double écran, en général, ils adorent. Après, ils veulent plus aller sur autre chose.
C'est un peu ce qui s'est passé en entreprise. C'est exactement ça. Quand j'ai commencé à installer un premier Mac quelque part, c'était waouh, c'était la guerre quoi. C'était le déclenchement de la guerre. Et puis effectivement, la personne qui a utilisé cette machine, qui n'y connaissait rien et qui n'aimait pas l'informatique, parce que quand on lui disait le mot informatique, les seules références qu'elle avait en tête, c'était
Ah,
Windows.
virus. C'était virus
C'était
aussi.
virus, c'était plantage, c'était un coup ça
Oui.
marche, le lendemain je refais la même chose, ça marche pas, pourquoi je suis déconnecté du réseau, pourquoi mon wifi marche pas, pourquoi quand je vais à la maison ça marche et quand je reviens ça marche plus. Donc ça c'était l'informatique. Quand on disait le terme informatique, voilà, c'était à ce que la personne pensait. Je l'ai fait passer sous Mac sans rien lui dire, en lui mettant bah, les mêmes logiciels avec Firefox, avec OpenOffice, voilà, donc ça changeait rien, mis à part que c'était plus joli. au bout de 4 jours, elle a commencé à fouiller dans iPhoto, elle a commencé à fouiller dans iWeb, elle a commencé à fouiller dans iTunes, elle a commencé à diffuser des films sur rétroprojecteur, enfin, elle a commencé à utiliser l'informatique, et puis au bout d'une semaine, comme tu l'as dit, c'était waouh, c'est génial, ça marche. Je l'allume le matin, je check mes mails, ça marche, je me soucie plus des virus, je commence réellement à utiliser l'informatique et pas me battre avec tous les gens.
Alors
pour
là,
que ça
justement, et là,
et par rapport au prix, parce qu'on en parlait tout à l'heure, je voulais juste rajouter quelque chose et ça fait partie aussi des fonctionnalités. C'est les touchpads sur les portables Apple sont quand même plus évolués.
Ah,
alors, faut prendre en compte, faut peut-être
mais
le prendre
là,
en compte.
Là, on prend, j'ai donné l'exemple d'un ordinateur portable parce que l'avantage d'un ordinateur portable, c'est que c'est assez simple, il n'y a pas 30 millions de configurations, et donc ça me simplifiait un peu ma tâche de recherche. Oui, je suis un glandeur, et je l'assume.
Ouais, mais voilà,
donc, du coup, là, je voulais quand même comprendre le problème dans son ensemble, donc un iMac, ça marche aussi, il n'a pas de trackpad. Donc,
mais il a un écran, alors que tu as des ordinateurs ils n'ont pas d'écran, tu vois, ils ont pas tout intégré.
Au pire, si j'avais voulu le comparer, j'aurais peut-être d'ailleurs dû le comparer au All-in-One de Dell, le tout en un.
Il est pas super comme modèle. Là, ce serait PC plus cher.
Il est plus cher.
Tous les all-in-one, que ce soit chez Dell, l'autre c'est NEC, sont plus chers à configuration égale.
Ah, d'accord. Bah, écoute, donc là, ça me fait penser aux Sony Vaio, par exemple, qui sont des grosso modo au niveau de l'extérieur, sont proches de Mac. Au niveau de la finition, même limite copie un peu hein, quand on voit les claviers des derniers, ça fait un peu penser ouais. Au dernier clavier des MacBook, mais surtout ce clavier noir sur un fond gris. Bon, la différence c'est que l'un est en plastique, l'autre en aluminium, je vous laisserai choisir.
Voilà.
Mais ça c'est et l'étiquette de prix est pas très loin d'ailleurs.
Ouais.
Si on calcule. Sinon, encore une différence et un avantage pour le Dell par rapport au Mac, c'est que par rapport à l'Apple, autant rester sur les marques des deux côtés, le Dell, il se trouve qu'il a une sortie VGA directement et il a une deuxième sortie et cette fois c'est de l'HDMI. Alors, quand vous êtes comme moi et que vous êtes arraché les cheveux avec cette saloperie de et je pèse mes mots de mini DisplayPort. Qui merde dans tous les sens avec la sortie VGA, par exemple. Sachez qu'elle ne dépasse pas les 1600 par 1000. J'en ai été pour mes frais. Heureusement, j'ai pu faire un échange, donc c'est des frais qui m'ont pas coûté beaucoup, si ce n'est de câbles à changer. Le truc, c'est que avec le mini DisplayPort, vous avez des galères. C'est d'ailleurs assez bizarre, des galères sous Mac. Et sur le Dell, vous avez directement les prises qu'il vous faut, parce que maintenant, pour brancher une télé, c'est du HDMI.
Je sais pas, moi j'ai toujours galéré en tout temps pour brancher un PC n'importe lequel à un vidéoprojecteur. Il y a toujours une merde. Soit tu branches, ça marche pas, soit il faut appuyer sur 4 touches. Matériel, ouais. Bah oui, niveau matériel, oui, c'est sûr, mais si j'utilise un ordinateur, c'est le logiciel que j'utilise, c'est pas le matériel.
Oui, c'est sûr que tu galères après au niveau des câblages et tout sur le Mac, mais une fois que tu l'as branché, t'as l'écran qui s'affiche tout de suite quoi.
Ouais, voilà.
Alors que c'est vrai qu'avec un PC, tu peux galérer longtemps avant de dire celui-là, c'est mon écran principal, je veux que ça soit là.
Si vous le voulez bien.
Enfin, réflexion comme ça.
Si vous le voulez bien sur ces petits bugs d'affichage, on va faire une petite pause, on revient tout de suite après.
Ouais.
Allez, comme ça, on boit un verre d'eau et puis on est chaud pour la deuxième partie.
Le débat d'Octet sera de retour sur Pod Radio après cette petite pause musicale. We'll be right back.
Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre, je suis avec Puff Magic Fingers et Mathieu Blanco de MagJT. Rebonjour au cas où, comme ça on ne sait jamais.
Bonjour.
Voilà. Juste avant, nous parlions donc d'une différence de prix entre un Dell à 999€ et un MacBook à 1499€. Nous étions mis d'accord pour d'ailleurs baisser à 400€ cette différence vu que le Dell n'avait pas le rétroéclairage par LED. Donc du coup, ça fait plus que 400€ de différence vu que l'option coûte 100€ sur le site de Dell. Il y a quand même deux choses que je pense, et là malheureusement ça devrait normalement pas être à moi de le dire vu que je suis censé représenter le camp PC face à un camp Mac supérieur en nombre, mais il y a deux choses à mon avis qui pourraient jouer en votre faveur, et là je vous lance une perche. C'est que la première, c'est le côté hardware, c'est une chose, mais il y a aussi le côté software. Et la deuxième chose, c'est un peu les prix d'occasion du Mac. Donc voilà, maintenant que je vous ai donné ça, j'espère que vous serez capable de faire un peu...
Le côté software, on t'en parle depuis le début et tu me dis ouais, mais non, mais quelqu'un qui a jamais touché un ordinateur.
Non, mais c'est normal. Là, vous êtes en train de me dire le système est plus stable. D'accord ? Mais depuis quand il n'y a que le système qui est fourni avec les Mac ?
Oui, bon, c'est vrai. Alors, il y a toutes les suites iLife qui est vraiment largement, on va dire, beaucoup mieux que Windows Movie Maker. Et c'est tout ce qu'il y a d'ailleurs.
Il y
a Windows Calendar depuis.
Il y a Windows Media Player pour iTunes. Il y a une bibliothèque.
Oui,
qui est gérée.
Non
mais il y a une bibliothèque à gérer.
Windows Media Player, c'est une des rares applications que même les PCistes et les pro PCistes aient par-dessus tout.
Ice,
pardon.
Amis du Becherel, bonsoir.
Ami de la faute d'orthographe, je vous représente.
C'est ça. Je connais beaucoup de PCI, c'est en général ce qu'ils utilisent, c'est ce que c'est iTunes.
C'est iTunes. Donc, il y a encore des très récalcitrants, mais de moins en moins qui utilisent Winamp ou Fubar.
Non, mais Winamp, franchement, c'est ce que j'utilisais à l'époque. Il est génial, ce logiciel.
Ah, il a révolutionné. Il est venu avec la révolution du MP3. Il a marqué l'histoire, mais c'est est resté à cette époque-là.
Oui, aussi, c'est le problème, malheureusement. Vous pouvez détailler un peu la suite iLife et surtout l'intérêt qu'elle peut avoir pour un consommateur. C'est-à-dire que si vous allez me dire, si vous êtes parti pour me dire, oui, mais vous allez pouvoir monter des fils, vous allez pouvoir. Non, ça, c'est pas le genre de choses qu'un utilisateur lambda a l'habitude de faire. Donc, je serais plutôt en train de vous demander les améliorations sur les choses qu'il fait déjà.
Mais juste pour la petite parenthèse, la plupart des gens parce que j'ai fait switcher, mais un nombre hallucinant de personnes. Si j'étais payé à la commission, je pense que ma retraite serait faite. La plupart des gens ne font pas parce que justement, ils ont une grosse appréhension par rapport à ce qu'ils connaissent. Va dire à quelqu'un qui a été toute sa vie sous Windows, qui sait même pas que les Macs existent, tu vas pouvoir faire des sites en deux clics. Bah, il va dire je m'en fous parce que ça lui serait jamais venu à l'esprit parce que pour lui d'office ça va être compliqué, ou monter un film c'est un truc. Maintenant tu lui dis regarde ton appareil photo numérique, tu le branches, hop là, à peine tu l'as branché, t'as iPhoto qui se lance, qui te propose d'importer tes photos. Ah putain c'est cool, je clique sur importer, ça m'importe les photos, ça les classe. Si je rentre le lieu, ça me fait une carte Google Maps super. Si je clique sur diaporama et que je choisis un effet en 3 dimensions, en 4 clics j'ai créé un diaporama 3D avec mes photos.
Oui, mais c'est joli, les effets,
attends,
d'accord.
Quand tu leur dis,
mais en quoi
quand
ça,
tu leur dis que tu peux faire
aide.
Ça 5 minutes après l'avoir installé, ça peut être un bon argument aussi.
Voilà, et c'est ça la force, c'est de dire à la personne, ton ordi tu l'achètes, tu le sors de la boîte, tu le branches, tu te connectes à ton réseau Wi-Fi en moins de 20 secondes, t'es sur Internet, t'as
moins de 20 secondes, toi t'as pas une Livebox, toi. Parce qu'avec une Livebox, ça peut être beaucoup plus long.
Si t'as une Livebox, faut te lever, faut appuyer sur le bouton derrière, faut revenir à ton Mac rapidement. C'est un peu plus compliqué.
Ah mais pof, lui, il a la flemme de se lever, il préfère craquer directement sa Livebox à distance.
Il auto-craque sa Livebox.
C'est ça. C'est
non, mais
en gros,
c'est
trop fatigant
de
se lever. Non ?
La grosse force logicielle, c'est
Freebox, je m'embête pas. J'ai pris une Freebox, je me suis dit, ça fera plus Mac.
Oui, non, ça fait plus geek. Après, de là à dire que ça fait plus Mac, que c'est pas forcément sûr, mais.
Et si, parce que je crois que
ça reste relativement simple.
C'est le seul fournisseur que, par exemple, quand tu appelles le SAV, tu as un département SAV dédié au Mac.
Oui, c'est vrai.
C'est le seul. Petite parenthèse. Mais donc, pour revenir à la partie logicielle, ça, c'est la grosse force logicielle. C'est-à-dire que le logiciel à l'intérieur va être aussi travaillé et aussi fini et aussi joli que le design de la machine.
Mais
attends,
je vais un peu faire entre guillemets l'idiot du village de nous trois, parce que ouais. Évidemment je connais la réponse que tu vas me donner, enfin j'espère que tu vas donner la même que celle que j'ai en tête. Mais grosso modo, moi quand je suis sur mon PC, je branche ma caméra. Bon, elle est reconnue par le système, parce que j'ai XP, bon
la caméra,
quand même,
la webcam,
il marche. Non, non, la caméra, l'appareil photo, pardon. Pardon.
Ouais, d'accord.
Je branche l'appareil photo. Bon, et j'accède à mes photos, puis je les mets dans des dossiers. Ça fait très bien l'affaire. Je vois pas ce que ça m'apporte de plus. Bon, certes, j'ai un joli logiciel, c'est dedans, mais qu'est-ce que ça m'apporte de plus par rapport à l'avoir dans des dossiers?
Oula.
T'as vu, elle est pas forcément simple. Elle paraît tout con la question, mais parce que on me l'a posée, hein, sérieusement.
Pour le peu que j'ai utilisé iPhoto, je pourrais dire que d'après ce que j'en sais, ça permet de faire des albums photos assez simples. Simplement, ça permet de faire énormément de choses sans vraiment, juste en faisant trois clics. Et tu te demandes vraiment. Tu te demandes s'il y a un truc sur PC qui sait faire la même chose aussi facilement.
Il y a Picasa, mais c'est pas aussi agréable. Mais grosso modo, c'est ça, c'est comme gérer sa musique par dossier. Dire qu'est-ce que va m'apporter iTunes ou Windows Media Player. À partir du moment où tu le mets dans un logiciel comme iPhoto, bon déjà tu vas avoir, c'est agréable parce que ça te crée tes dossiers automatiquement. T'as juste besoin de rentrer le nom et après t'as 40 000 autres options, mais d'une diversité incroyable et d'une facilité. Un enfant de 5 ans, il n'y a pas de problème, il l'utilise. Tu peux aussi bien classer que détecter le visage des gens, créer des albums par lieu, par visage.
Un calendrier, par date.
Attends, détecter le visage des gens. Je tiens à mettre un énorme bémol dessus, mais quelque chose de un bémol de 4 mètres par 3, d'accord ?
C'est vrai ?
C'est un truc qui marche très moyennement. C'est-à-dire que vous voyez la keynote et vous faites
moi,
ça va me rendre des services énormes. Et vous le faites sur votre ordinateur et vous faites ouais, mais il y a la moitié de mes photos où les gens ils sont de profil, donc du coup ça marche pas. Les autres, quand ça les reconnaît, ça reconnaît des gens qui n'ont rien à voir. Parce qu'à la limite, tu dis s'il y a des liens de parenté entre les gens, bon, ça paraît à peu près logique. Mais là, non, hein. Je veux dire, tu peux avoir la grand-mère du côté de ta femme et ta petite cousine de 8 ans qui sont reconnues comme la même personne, tu vois. Donc, alors qu'elles n'ont rien à voir. Hein.
D'accord.
Je pourrais pas vous montrer les photos en audio, et puis en plus les personnes concernées seraient pas forcément d'accord. Mais non, vraiment rien à voir, quoi. Ça ressemble pas du tout.
On a eu des brunes, par rapport à iPhoto, etc. Par rapport aux autres logiciels, c'est aussi le fait que quand tu vas brancher un appareil, il va apparaître directement dans le logiciel. Bon, je sais qu'il y a des logiciels qui le font, hein, sous Windows aussi. C'est-à-dire que là, c'est intégré dans pas mal de logiciels directement dans le système. Et c'est plus simple d'utilisation parce que tu as certains logiciels, tu dois lancer le logiciel, etc. Alors que là, tu as des options pour que iPhoto se lance automatiquement. Bon, je sais bien qu'à chaque fois, l'argument, ça va être qu'il y a exactement la même chose sur d'autres logiciels. Mais là, l'avantage, c'est que c'est intégré au système quand même. C'est pas quelque chose que tu vas télécharger à côté. Mais c'est vrai que depuis Windows Vista, il y a Windows Gallery là qu'ils ont rajouté qui fait à peu près la même chose. Mais c'est pas aussi bien parce que c'est tout jeune. Alors
oui,
que
mais
photos,
si ça fait la même chose, après que ça soit mieux ou pas, moi j'ai juste besoin d'un truc qui s'occupe vaguement de mes photos, quoi.
Bah, ça fait pas exactement la même chose. C'est-à-dire que t'as pas. Après, c'est vrai que c'est peut-être pas juste un côté esthétique parce qu'il y a d'autres fonctions, mais c'est surtout que si t'as besoin d'un truc pour gérer tes photos, autant avoir un truc qui le fait d'une manière simple et efficace.
Ouais. Parce que tu gagnes du temps.
Oui,
tu
aussi,
gagnes du temps à gérer tes photos dans iPhoto plutôt que de les gérer en dossier. Tu gagnes du temps à les gérer, à les importer et même à les utiliser. Et justement, le point qu'a abordé à l'instant. Ah, j'ai plus le nom. Aidez-moi.
Pof, c'est marqué dans Skype, tu sais.
Ah oui. Non, moi j'ai Gino. Je savais que
c'était
ça.
Que tu m'as pas rajouté.
D'accord. C'est l'intégration système. C'est-à-dire que ce soit iPhoto, iTunes ou tous les logiciels de la suite iLife sont totalement intégrés au système. Ce qui fait que dès que tu vas avoir besoin d'une photo, quel que soit le logiciel où tu te trouves, tu vas pouvoir aller piocher tes albums dans iPhoto et rechercher en quelques clics, plus besoin d'ouvrir 40 dossiers, de se rappeler soi-même où est cette telle photo de telle personne. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être agréable.
Tout est intégré, tous les logiciels sont intégrés les uns avec les autres.
Voilà.
Si tu as besoin de faire
gagner
un montage photo dans iMovie pour faire un film avec des photos, des diaporamas, etc., tu regarderas et tu auras toute ta librairie
photos, etc. Oui, mais là, encore une fois, iMovie, de toute façon, j'ai pas l'intention de faire du montage vidéo.
Que ce soit iMovie ou les autres, même si c'est juste dans MSN pour envoyer une photo à quelqu'un, plus besoin d'ouvrir 40 dossiers de passer du temps à chercher.
Oui, mais il y a MSN sur Mac.
Oui, il y a MSN sur Mac.
On est en train de faire le podcast du Switcher, en fait, hein, grosso modo. Aujourd'hui, j'ai l'impression, mais c'est pas forcément inintéressant de le proposer comme ça.
Il y a une version Microsoft Messenger, bon, qui est assez mentale, mais il y a d'autres logiciels type Adium et MSN qui permettent d'avoir les mêmes fonctions quasiment que le MSN sur Windows. Donc, c'est-à-dire que même si Microsoft freine un peu de pied et fait un Messenger bien pourri et bien en retard par rapport à la version qu'ils font sur Windows, il y a toute une communauté derrière qui a développé
On peut envoyer des Wiz et tout. On peut envoyer on peut envoyer le petit gars qui pète sa guitare sur un haut-parleur.
Celui-là peut-être.
Ouais,
c'est le petit gars qui pète sa guitare, je suis pas sûr qu'on puisse l'envoyer, mais le recevoir, je crois que c'est possible avec AMSN.
Ah d'accord.
Ouais. Tu peux recevoir, je sais que tu peux recevoir.
Non, parce que moi, sans les Wiz, MSN, ça n'a plus aucun intérêt. Autant utiliser un vrai logiciel comme Skype, par exemple.
Ouais, sur Skype, ce que tu fais, c'est que tu fais des callbacks, t'arrêtes pas d'appeler et tu raccroches.
Je sais pas comment ça marche aussi.
Mais donc, pour résumer, au final, la personne qui veut juste gérer ses photos, au final, si elle commence à utiliser iPhoto, elle va gagner du temps à les importer, à les ranger et à les utiliser. Donc, au final, elle aura tout gagné.
Ouais. Le petit terme que c'est bien parce que c'est moi qui suis en train de leur fournir des arguments, je peux pas m'en empêcher, mais le petit terme par exemple qui aurait été intéressant d'utiliser, ça aurait été le iTunes de la photo, en fait, parce que c'est un peu l'idée, quoi, avec
exactement.
Des listes de lecture intelligentes. Disons que l'avantage, c'est comme ça, on voit bien les gens qui utilisent iTunes sur leur PC, ils sont nombreux, ils voient bien ce que ça peut donner.
D'ailleurs, tu me fais penser à quelque chose, le principe d'intelligence, en fait, des dossiers, des listes de lecture, etc., c'est quelque chose qui est vachement présent sous macOS aussi, c'est toutes ces listes de lecture que tu peux faire intelligentes, qui peuvent te sortir les 20 derniers fichiers, etc., et tu peux faire des tas de choses comme ça, ce qu'ils appellent des trucs intelligents, quoi, vraiment, c'est juste un truc avec des conditions, hein, des rangements avec des conditions, etc., mais ça peut être vachement pratique.
Alors là,
le truc le plus simple, c'est dans iTunes les morceaux récents, quand tu viens juste d'importer plein de trucs, quand tu veux retrouver un morceau facilement, c'est assez simple.
Ouais. Alors donc là, le néophyte qui nous écoute, ça va lui faire un peu peur quand on va lui dire rangement intelligent, etc. Mais c'est un truc qui est génial. C'est-à-dire, quand on est sur iTunes, par exemple, on a l'habitude de cliquer sur le petit plus en bas à gauche pour créer sa liste de lecture. Et si on appuie sur la touche Alt du clavier, ça va se transformer en une petite roue. Ouais. Et à partir de là, on va pouvoir créer une playlist pareille, sauf avec des conditions. Et par exemple, je dis, bon voilà, je veux créer une playlist où je veux que dès que je rajoute un morceau dans iTunes et dès que l'artiste contient tel mot, eh ben, il se retrouve automatiquement dans cette liste de lecture. Ce qui fait que j'ai même plus besoin de classer, en fait. Je crée ma liste de lecture intelligente en disant, voilà, dès que l'artiste, on va prendre un artiste, dès que l'artiste c'est Johnny Hallyday, dès que je fous une chanson dans mon iTunes,
ça zappe automatiquement. Non, c'est pas ça. On n'est pas capable de le faire.
Tu peux aussi le faire. Mais en gros, voilà, j'impose mes conditions, l'artiste contient, le type de musique c'est jazz, et ben, dès que je mettrai une chanson dans iTunes et qu'elle contient ce terme jazz, elle se retrouvera dans ma liste de lecture. Donc en plus, j'ai même plus besoin de classer, ça se range tout seul, c'est merveilleux. Et tu peux aussi en faire dans iPhoto, qui est le iTunes de la photo. Et tu peux aussi, là je viens d'y penser, les options de partage. Je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent utilisent Facebook et sans doute MobileMe et Flickr, et ben, c'est directement intégré. C'est-à-dire que tu peux créer un album photo Facebook dans iPhoto. Et donc tes photos vont automatiquement s'envoyer sur ton compte, se rajouter à ton profil Facebook. Et comme tu l'as sur le côté dans iPhoto, tu peux en live, je sais pas, une semaine après, rajouter d'autres photos, les supprimer, et ça va automatiquement se synchroniser avec Flickr, avec ta galerie Facebook. Donc il y a toute une intégration qui est super bien faite, qui est très transparente et qui est au final qui est simplissime.
Et Et sur tous
et
les petits plus aussi qu'il y a aussi directement dans l'explorateur de fichiers, c'est aussi les dossiers à graver, où c'est juste un dossier dans lequel tu mets tout ce que tu veux graver. Et ensuite, quand tu vas dedans, t'as un tout petit bouton gravé, comme ça, tu cliques dessus et puis ça grave.
Et t'as un truc similaire depuis XP, mais c'est nul à chier. Ça
ouais, c'est pas terrible. Et t'as aussi le principe des étiquettes aussi. Quand tu veux repérer plus facilement des dossiers rapidement, tu fais un clic droit sur un dossier et tu peux lui attribuer une couleur en fait qui va se mettre en surbrillance comme si elle était surlignée en fait.
Ouais, quand
et
tu
ça
veux
peut
classer.
Être vachement pratique. Ouais.
Et je crois que là, on peut faire une liaison avec
c'est
le.
C'est plein de petits plus qui font que au final, c'est.
C'était ce que m'avait sorti une des personnes que j'avais fait switcher pour en rapport au prix de la question du début. C'était quand tu connais rien ou même que tu as juste connu PC puis que tu découvres cette marque, au début tu dis waouh bon design c'est super joli, puis tu te mets devant, tu fais ah ouais même à l'utilisation c'est super c'est plus simple, c'est plus joli voilà. Donc tu te dis allez, je me fais plaisir, je mets plus de sous. Et puis au final, il y a tellement de détails, de petits trucs pratiques qui font que c'est agréable, c'est stable, puis tu commences à l'utiliser, puis ça tout devient simple et tout fonctionne quasiment.
Et
sauf le DisplayPort. Et au final, tu te dis waouh, que ce soit matériel.
Non, le DisplayPort DVI marche hein, je te rassure. C'est le VGA qui a des problèmes.
Mais au début, t'achètes pour le design parce que c'est joli, parce que tu te fais plaisir. Et puis au final, tu fais mais ça a rien à voir. Et comme dit, il y a tellement de détails dans que ce soit dans les logiciels, dans le système et machin. Au final, tu fais impossible à revenir en arrière.
Ouais, c'est clair.
Et le petit avantage aussi, c'est et ça c'est peut-être un peu plus le côté programmation qui a parlé, c'est que quand tu fais une application sous Mac. T'as le choix de faire n'importe quoi si tu veux, hein. Tu peux faire comme tu veux, sauf que, en gros, comme sur Windows, tu peux mettre tes composants comme t'as envie et tout. Mais les bibliothèques de composants, etc., elles sont vraiment intégrées graphiquement au système. C'est-à-dire que, en fait, peu importe vraiment l'application que tu fais, si tu utilises les outils donnés par Apple, ça fera vraiment une application c'est du Mac. Quoi. Donc, en fait, toutes les applications. En étant différentes elles-mêmes, elles auront toujours un aspect Mac. Alors que sur Windows, tu regardes par exemple Google Chrome qui est sorti il y a déjà un moment, mais pas si longtemps, ressemble pas vraiment à du Windows. Et d'ailleurs, on est bien.
Ouais, mais c'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs. Hein,
c'est pas une mauvaise chose, mais tu peux regarder plein de logiciels comme ça qui ne ressemblent pas à du Windows. D'ailleurs, Winamp, etc. T'as des tas de logiciels qui sont skinés pour pas ressembler à du Windows. Ouais. Alors que sous Mac, t'as pas beaucoup d'applications qui sont skinées pour pas ressembler
à du
Mac.
Le côté esthétique, c'est on est d'accord que c'est vrai que c'est sympa, mais c'est pas ça qui justifie le prix. C'est pour ça que j'aimerais bien que, vu qu'il nous reste 10 minutes sur ce sujet, il va donc falloir faire vite. Je voudrais qu'on parle un peu de la différence de prix qu'il y a dans l'occasion entre un Mac et un PC. Parce que à la limite, il y en a peut-être qui voudront tester sur un Mac d'occasion. L'histoire, en espérant payer un peu moins cher. Vous leur souhaitez bonne chance, vous aussi Parce que le problème principal d'un Mac, quand même, quand tu veux l'acheter d'occasion, c'est qu'il est au prix du neuf, non? Quasiment.
Voilà, c'est que j'ai pas vraiment regardé les prix d'occasion parce que je m'y suis pas intéressé, mais du peu que j'en ai vu, les prix d'occasion d'un Mac, c'est les prix d'un PC neuf, en fait.
Ouais.
Ouais, non, c'est pas exactement ça, mais...
Ah, exactement, mais ça y ressemble, quoi. C'est...
Prenons l'exemple concret, si vous voulez, parce que j'en ai un sous la patte. Oui, je ne mets pas tout dans les notes d'émission que j'envoie. Hein. Je précise, c'est fait exprès. Je me prévois
bien,
des petits jokers. Il y a le cas, par exemple, du MacBook que j'ai. Ah ben non, merde, j'ai laissé au boulot. C'est vrai qu'à la limite, ça n'avait aucun intérêt que je vous le montre à l'audio. Mais il se trouve que, bon, pour faire simple, c'est un MacBook fin 2006. Pour donner l'idée, c'est le 2,16 GHz. Voilà. Un lecteur Superdrive. Donc c'était le milieu de gamme fin 2006. Ça coûtait donc à l'époque, puisque c'est assez simple à se souvenir, ça coûtait donc 1 200 €, comme tout milieu de gamme de MacBook. Et je l'ai acheté fin 2007. J'ai acheté fin 2007, en décembre. Il m'en a coûté 800 €. Donc c'était une sacrée affaire, hein, quand même. Et j'ai regardé aujourd'hui même sur le même site. Donc en l'occurrence c'est deux fois moins cher, hein, pour ne pas le citer. C'est pas forcément d'ailleurs le plus intéressant, mais ça donne une vague idée. C'est un indice comme un autre, quoi. Mais Price Minister était pas loin dans les prix d'ailleurs. À l'heure actuelle, donc sachant que je l'ai acheté 800 €, il en vaut 650 ou 700 €.
Ah, ça descend lentement.
Ça pour moi c'est plutôt un avantage. Ah, mais pour la personne qui achète.
Justement, et voilà. Mais c'était moi je présentais, j'étais obligé de le présenter comme un défaut, tu vois, mais au fond évidemment c'est un peu un avantage. Sauf que j'ai voulu acheter un MacBook d'occasion pour ma femme et je
quelque part c'est que si le prix reste aussi cher, c'est parce que la machine dure.
Voilà,
et donc comme on voit, c'est Phil, tu l'as acheté quand ton MacBook?
Bah, je l'ai acheté début 2006.
Il datait de quand quand est-ce qu'il a été sorti de la boîte?
Il datait fin 2006.
Fin 2006, ouais. Voilà, et il marche encore. Alors que moi, le Chromebook que j'avais acheté...
Enfin, ça dépend, j'ai quand même acheté un iMac parce qu'il n'était pas assez puissant.
Mais... Oui, mais il n'était pas assez puissant, mais il s'allume toujours, etc. Alors que moi, le Chromebook que j'ai acheté fin 2007, que j'ai acheté 800€, il marche plus du tout. C'est, il a une pointe de disque, il a plus de batterie, il a un chargeur que j'ai dû racheter.
Ça
devient pas, quoi. J'ai pas fait grand-chose, pourtant.
Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier un peu partout, que ce soit dans les entreprises ou dans les universités. Et c'est d'ailleurs un jeu auquel je me suis beaucoup amusé. C'est que dès que, par exemple, dans les universités, il y a toujours une ou deux salles où ils ont que des Mac. Et un peu partout, ils ont des PC. Et quand on peut parler avec les administrateurs réseau, même en entreprise, on leur dit oui, votre, comment dire, vous changez le parc un peu tous les combien là, pour les PC? Pour les PC, généralement, ils changent 25% du parc tous les ans ou tous les deux ans. Ouais. Et quand on leur demande, et le parc Mac, vous le changez
on
tous les
pas,
combien
on l'a pas changé, c'est ça.
Alors généralement, la plupart du temps, c'est oula, je sais pas. Ou alors les gens répondent, bah écoutez, on change quand ça pète. Et quand vous demandez, bah, ça a déjà pété. Et là, c'était à l'IUT de Mulhouse. Il y a toute une salle qui est remplie de Power Mac G4 qui sont encore en fonction parce qu'ils les ont boostés.
Ça tourne bien, Power Mac G4 quand même.
Ah ouais, bah en plus c'est la salle où ça demande où ils font du montage vidéo avec oui. Y a Léopard dessus, il y a Final Cut, il y a tout quoi. En fait sur les 40 machines, on en a changé une et le reste on a juste rajouté de la RAM, on l'a boosté.
Oui, voilà.
Voilà. Des Power Mac.
Une petite chose, parce que vous avez dit qu'un Mac ça ne pétait jamais. Il y a quand même
ça pète bien sûr,
il y a quand même des sérieux problèmes au niveau du hardware assez réguliers. Quand même trop régulier, quand même, pour un, ouais, pour un produit qui coûte 400€ de plus. Tiens, je remets une petite couche. Disons que moi, par exemple, mon MacBook, bon, certes, son prix a pas trop baissé, mais j'ai quand même la carte réseau qui perd le contact et je suis obligé de rebooter l'ordinateur, quand même. Donc, c'est un petit bug assez bizarre. Il est pas logiciel, je viens de réinstaller un système tout propre. J'avais le nouvel iMac, j'ai tout transféré dessus. Ça aussi, ça c'est super pratique de tout transférer. Génial. En deux clics d'un ordinateur à l'autre. Toujours est-il que toutes les heures, deux heures, ça perd le truc, je suis obligé de rebooter pour avoir le réseau. Bon, les trois quarts du temps, on est d'accord, je le branche en Wi-Fi, parce que c'est un portable. Mais là, au boulot, je suis obligé de le brancher en LAN, parce que le Wi-Fi, ils sont déjà à 25 ordinateurs dessus, donc après, au bout d'un moment, ça pose des problèmes. Donc, je suis obligé de le brancher en LAN, et ça me pose un petit problème de le rebooter toutes les deux heures quand j'ai des... Mais bon, ça, c'est un problème hardware qui touche ma machine, ça touchera pas forcément tous les Mac. Mais vu qu'on est sur les MacBook, je rappelle le coût des coques pétées, par exemple. Donc, est-ce que c'est pas un peu honteux? Quand on paye ce prix-là, et qu'on paye à la base aussi quelque part une finition, parce qu'elle a un prix, on est d'accord. Après qu'elle se justifie, qu'on en ait besoin, c'est autre chose. Mais on paye une finition qui finalement se pète en morceaux, en l'occurrence pour les coques de MacBook.
L'avantage derrière, c'est aussi le service après-vente. Si tu me laisses le faire, s'il reste assez de temps, si je peux peut-être raconter ce qui s'est passé avec mon iMac.
Mais vas-y, allez. Mais tu as 4 minutes, alors tu te dépêches.
Je vais raconter vite fait alors. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai eu un iMac en octobre dernier et qu'il a marché, on va dire, 20 jours. Et qu'après, il avait des problèmes assez récurrents de kernel panique, d'ordinateur qui démarrait plus vraiment bien, qui avait des gros bugs de partout. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que comme il n'avait pas été acheté dans un Apple Store, donc en gros un vendeur spécialisé Mac, on va dire.
Bah dans un APR alors, un Apple Premium Reseller, bah, une boutique affiliée Apple. Quoi.
Oui. Parce que des Apple Store, il n'y en a pas vraiment en France.
Pas encore. Bientôt.
Pas encore, oui. Et donc, du coup, comme il n'avait pas été acheté dans un APR ou un Apple Store, vu qu'il n'y en a pas en France, parce que je suis...
Tu tournes en rond, la pof, enchaîne. Allez.
J'ai dû aller sur le service après-vente du revendeur, donc de ceux qui l'avaient commandé, etc. Donc, pour ne pas le citer, Boulanger. Ah, merde, je l'ai cité. Et ces gars de chez Boulanger, comme ils sont vachement super méga spécialisés Apple, ils ont fait ah ouais, ben on va le renvoyer, hein. Et donc du coup déjà quand on passe par ce genre de personnes là qui sont pas agréées Apple, ça met 3 semaines au lieu d'une semaine déjà, parce qu'ils mettent une semaine à l'envoyer, après il y a une semaine de réparation, après une semaine ils le renvoient. Donc en fait ce qui s'est passé pour aller plus vite, c'est qu'ils ont changé le disque dur 2 fois, ils ont essayé de changer la carte mère 1 fois, et ensuite ils ont dit ouais mais non mais on va peut-être changer le câblage etc. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé Apple directement, on a fait ouais non mais faudrait peut-être arrêter là, ça marche plus très bien. Alors ils ont été très gentils. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit bon écoutez, c'est vrai que là apparemment ça veut pas du tout marcher, alors ce qu'on fait, c'est qu'on vous offre le modèle au-dessus.
Ah ouais.
Donc quelque part c'est classe ce genre de truc.
Donc en fait, et non mais t'as pas eu le modèle au-dessus, t'as eu le modèle, le même modèle de, enfin le même niveau de gamme, mais juste tu as eu l'entrée de gamme dans 2 mois au moment où tu l'as eu. C'est-à-dire qu'en fait, mais... c'est le 20 pouces qui depuis est passé entrée de gamme.
L'entrée de gamme dans 2 jours hein, d'ailleurs quand je l'ai
ah
eu.
Ah oui, oui c'est vrai en plus.
Donc ça, en fait, c'est un conseil qu'on peut donner à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, quelle que soit la marque de l'ordinateur, sauf si c'est un truc monté maison, c'est quand vous avez un problème, ne passez jamais par le SAV de la Fnac, de Boulanger, de Darty. Prenez la boîte de l'ordinateur et trouvez le papier service après-vente avec le numéro. Comme ça, vous traitez directement avec les gens qui vont réparer.
C'est ça.
Et oui, généralement pour la
mais ça marche aussi pour les sites en ligne hein, Pixmania, rue du commerce machin.
Ouais,
si vous avez une marque un tantinet connue, c'est-à-dire par exemple pour un vidéoprojecteur BenQ,
Sony,
ce genre de choses quoi. Passez
parce
par le SAV.
Ce qui s'était passé, c'était que la première fois on était passé par le SAV de Boulanger, donc ça avait mis 3 plombes etc. Donc après la deuxième fois on était carrément allé dans Paris directement chez un réparateur agréé, là ça avait mis qu'une seule semaine. Bon, ils avaient aussi changé le disque dur, bon parce qu'ils n'avaient pas cherché plus loin. Bravo hein. Et donc au final, vu qu'ils savaient pas vraiment ce qui s'est passé, c'est Apple directement qui finance le modèle d'au-dessus avec plus de mémoire, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément sur les autres marques en fait.
Voilà. Bon,
c'est vrai que pour la question, éviter les premières. Ouais, d'accord. Éviter les premières.
Hop. Et ben on l'a perdu. Voilà. C'est
et
malin.
Ben,
donc je pense que c'est éviter
donc,
les premières séries de chaque modèle. Parce que sinon ça pose effectivement des problèmes, mais je vais le rappeler pendant la pause. Justement, on se retrouve juste après cette petite pause musicale.
Le débat d'octet sera de retour sur Pod Radio après cette petite pause musicale. Thank you.
sommes de retour et comme d'habitude, nous avons eu des petits bugs techniques, limite ça nous manquait. Après galérage et redémarrage de Skype, il y a le retour de Mathieu.
De retour.
Voilà. Il y a aussi Pof
aussi
avec
qui
nous.
Je suis parti pendant la pause, je sais pas pourquoi.
Voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il y a aussi Pof Magic Fingers. J'ai oublié de donner les titres des de la musique de tout à l'heure. Donc celle que vous venez d'entendre, c'est Alexander Blue qui nous fait Emptiness. Et celle d'avant, c'était Velvet Carpet de Simone. Voilà. Au cas où, si vous voulez les télécharger sur Jamendo. Oui, c'est gratuit et c'est légal. Voilà. Prends ça dans ta gueule, Adopi. Voilà.
Et c'est bien.
Justement, j'ai mis des musiques calmes aujourd'hui parce que d'abord, on a fait dans la première partie les grosso modo les Mac contre les PC quand même. Hein, ça a tourné un peu à ça. Et dans cette deuxième partie, nous allons parler de Windows 7, d'où la musique calme, hein, parce que la musique adoucit les mœurs et les bugs. Voilà. Alors Windows 7, déjà, qui de vous l'a testé en vrai?
Moi.
Je lève la main faiblement.
Ouais, c'est-à-dire tu l'as testé de loin. Moi, pour être très honnête avec vous et complètement transparent, je l'ai testé par procuration. C'est-à-dire que je me suis beaucoup renseigné sur des gens qui l'ont testé. Voilà, sur les comptes rendus des gens qui l'ont testé. Donc, évidemment, ça veut dire que je ne l'ayant pas testé, les avis sont des avis empruntés à d'autres. Voilà. Déjà, vu qu'on est une grosse bande de Mac users, un peu Apple fanboy sur les bords, bon, c'est quoi les nouvelles photocopies de Microsoft? Qu'est-ce qu'il a piqué cette fois-ci à Mac OS X?
Le doc.
Comme ça, c'est fait.
Il y a un doc maintenant, ouais.
Surtout que c'est vachement plus pratique, hein, ils ont bien fait.
Ouais, mais ce doc, ils l'ont pas mis comme on a l'habitude en bas, etc. C'est quoi les différences?
Alors les différences, c'est que en fait, vous voyez les icônes de lancement rapide qu'il y avait en bas, ben maintenant, en fait, la barre qu'il y avait en bas, c'est que ça, c'est des icônes de lancement rapide. Et en fait, quand vous lancez l'application, c'est pas une petite, un petit rectangle qui va se mettre avec le nom, etc. C'est l'icône qui va s'illuminer un petit peu plus. Et oui, donc en fait, c'est un dock.
Barre des tâches en bas devient un dock, c'est ça.
Ouais, voilà. Enfin, pas vraiment, parce qu'il sépare toujours les icônes de la barre des tâches et les icônes de notification. Des applications. Mais sinon, c'est le même principe qu'un doc, c'est-à-dire que vous avez les applications que vous avez mis en raccourci, les applications ouvertes qui sont mélangées.
Oui, parce qu'avant, on avait quand même une possibilité d'avoir un lanceur d'applications
barre
de tâches.
Oui, c'est le truc qu'ils appellent le quick launch, là, les lancements rapides. En fait, c'est que ça maintenant. C'est que des gros boutons.
D'accord.
Partout.
Bah
n'as plus de rectangle avec le nom, etc. Tu as plus d'informations si tu passes la souris dessus.
D'accord.
Mais sinon, c'est une icône.
Et il se passe quoi quand ça apparaît comment quand tu dis plus d'informations?
C'est-à-dire qu'en fait, quand tu passes la souris dessus, l'application est ouverte, bon, déjà, elle a un petit signe qui distingue d'une application fermée. Je me souviens plus que c'est le signe, ça doit être un point ou quelque chose comme ça. Ça te rappelle un doc sur macOS.
Quand
tu
passes
la souris sur l'icône, ouais. quand tu passes la souris sur l'icône, tu as les fenêtres qui s'ouvrent en miniature, en gros. T'as une miniature des fenêtres ouvertes correspondant à l'application. L'avantage, c'est que tu peux fermer les fenêtres directement depuis cette espèce de petit panneau. Ce qui peut être pratique.
Pour une fois, c'est une chose qu'on n'a pas exactement.
Oui, c'est bien pensé.
Et que j'aimerais bien avoir dans l'idée.
Ouais, ce serait pratique.
Si seulement pour une fois, c'était le Mac qui pouvait copier Windows sur ce point-là, moi, là, ça m'arrangerait.
Oh, ils le feront jamais, ça. Jamais ils feront l'autre sens.
Ouais, non, mais ils pourraient faire pareil en mieux. C'est ça aussi la différence, quoi. On va éviter de faire du troll. C'est moi qui disais ça au début en plus. Hein, on va éviter de faire du troll.
Ouais.
C'est une seconde nature. Vu qu'on est toujours dans ce que copie Microsoft, y a quoi d'autre qui a été emprunté? L'explorateur, c'est-à-dire développeur.
Ah oui, c'est vrai, oui.
Ils ont enfin compris que l'explorateur Windows, c'est ils ont arrêté de mettre 40 000 boutons partout qui servent à rien, quoi. Ouais. Ils en ont fait un peu un Finder, que ce soit sur le côté, même dans le design, dans l'espacement des éléments,
c'est-à-dire
tout
qu'on
ça.
A une, on a une espèce de raccourci vers des dossiers sur
ouais,
le côté,
voilà,
c'est ça?
Voilà, mis,
exactement.
Ils ont mis un groupe librairie, en gros. Parce que moi je l'ai en anglais, donc en gros c'est bibliothèque, où vous avez les photos, les vidéos, les musiques, etc. Et en fait ça recherche dans le dossier public de l'ordinateur et ça recherche dans votre propre dossier les vidéos que vous avez rajoutées. Donc en fait c'est
un genre de dossier intelligent.
Ouais, voilà. C'est des dossiers intelligents ce qu'ils ont
et
rajouté.
Et
pas
au
mal,
niveau
ça.
Du design, ça se rapproche du Finder. Ils ont, et ça c'est une très bonne chose, ils ont, comme dit, simplifié l'interface, ils ont évité d'avoir 40 000 boutons. Voilà, ça va devenir un Finder en fait.
Ouais.
C'est une bonne chose, ça simplifie Windows, ça le rend plus agréable à utiliser, franchement.
Ouais. Non, mais c'est vrai que pour ma part, je suis plutôt satisfait de ce que j'en ai vu de Windows 7 parce que bon, bah, parce que ça se rapproche d'un Mac en fait. Donc forcément, ça s'améliore.
La petite question,
donc,
c'est est-ce que pour vous c'est scandaleux ou c'est pour vous normal que Microsoft copie les fonctions qu'Apple a souvent copiées à d'autres développeurs indépendants d'ailleurs, hein, prenant l'exemple
voilà,
de Overflow. Ou est-ce que vous le voyez comme étant flatteur?
C'est rien
en fait.
De scandaleux, c'est à la fois flatteur et à la fois normal de copier ce qui marche. Tu peux lancer des nouveaux trucs, mais tu peux l'intérêt aussi de copier ce qui existe déjà et que tu sais très bien que ça marche pour que
surtout s'il l'améliore
pour t'améliorer voilà c'est
sans
c'est,
compter que
c'est pas mal comme idée en tout cas de les dossiers intelligents qui recherchent dans ton dossier dans tes dossiers toutes tes vidéos etc
voilà
machin.
Parce que le gros souci
trucs,
dans
hein.
Windows Vista qui était vraiment lourd c'était que t'avais un dossier public avec donc en fait c'était comme un utilisateur qui s'appelait public donc tu pouvais
avec
mettre des vidéos
images,
des trucs dedans voilà exactement
bah, tu l'avais sur XP comme ça aussi. C'était mes images partagées,
et
mes vidéos
oui,
partagées.
Mais c'était pas exactement la même chose. Et le truc, c'est que tu pouvais mettre des vidéos dans ton dossier ou dans le dossier public. Là, l'avantage, c'est que tu peux avoir un seul endroit où qui regroupe les deux pour pouvoir les retrouver plus facilement. Parce qu'en général, c'était toujours ah où est-ce que j'ai mis mon image? Elle est pas dans mon dossier, elle doit être dans le dossier public ou alors. Enfin, c'était tu étais à la recherche de tes images tout le temps.
D'accord. Mais sinon, bon, maintenant qu'on a bien trollé en disant que Microsoft copiait éhontément, oui, je sais pas si c'est français, mais ça fera l'affaire. Microsoft, non, Apple, ou le méchant lapsus révélateur quand même. Justement, s'il n'est pas révélateur. Mais bon, sinon, les vraies nouveautés de cette version, les trucs qu'on n'a jamais vus avant, donc les nouveautés dans le monde de l'informatique en général, c'est quoi? Non mais il doit bien y en avoir les mecs quand même.
Et tout ce qu'on a jamais vu dans Windows, c'est l'optimisation. Il va y avoir de l'optimisation.
Ouais, c'est vrai.
Bien.
Ça marche
voilà. Mais pas que dans Windows, c'est très rare en général. Non mais attendez, c'est très rare quand même.
Si il y a quelque chose qu'on a jamais vu, c'est un logo de boot animé joli.
Ouais,
c'est-à-dire que c'est pas une petite barre verte qui tourne, l'espèce de petit truc qui bougeait en bas de Windows 98. Là, des espèces de petites boules de lumière qui tournent et qui forment un logo de Windows. Donc c'est déjà plus joli à voir.
Ils ont dépensé des centaines de milliers d'euros à des boîtes de com. Il y a eu 40 000 modèles. Ils ont beaucoup travaillé sur le logo de boot. Et ça, c'est une vraie révolution parce qu'il sera en haute résolution en plus.
Ouais, non mais sérieusement, non sérieusement, sans
c'est
rire,
vrai,
il
ça.
Est vraiment beau ce logo de boot, sérieusement.
Ouais.
Ouais. Ils y ont mis du temps, ils y ont mis de l'argent et on a un super logo.
Non mais tu déconnes pas quand tu dis qu'ils ont mis de l'argent à fond sur le logo.
Ah,
non,
je déconne pas, tu recherches les news là-dessus et tu te rends compte qu'ils ont mis, il y a des chercheurs de leur labs qui ont fait 40 000 essais, ils ont engagé des boîtes de com qui ont proposé plein de projets. Ensuite, il a fallu le faire en définition parce qu'ils voulaient pas que le truc soit en 16 couleurs.
Honnêtement, c'est un des plus beaux logos de boot que j'ai vu. Non mais c'est vrai qu'on passe longtemps dessus, mais c'est un des plus beaux logos de boot que j'ai vu parce que les Mac c'est juste une pomme et la plupart des autres systèmes Windows ou Linux c'est juste une barre de progression et là c'est vraiment un logo de boot animé qui est sympathique.
Il y a un truc qui m'inquiète les mecs quand même. Hein. Je me dis s'ils ont passé autant de temps sur ce truc de boot, ça veut dire qu'on est parti pour le voir souvent quand même là.
Non mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont vraiment bien passé du temps sur le boot aussi parce qu'il est quand même beaucoup plus rapide que les précédentes versions.
Ah, ouais, justement, voilà, je voudrais qu'on revienne sur ce principe d'optimisation, tout ça, et vous allez pouvoir m'éclairer. Même si je crois avoir compris, mais justement c'est le genre de choses que j'ai pas très bien compris. D'habitude, quand on passe, enfin dans le monde de l'informatique, Microsoftien, quand on passe d'un système à l'autre, on est obligé de changer les trois quarts de sa machine. Bon, j'exagère un peu, mais je sais pas si vous vous rappelez, mais là on dit XP c'est le meilleur système qu'on ait à l'heure actuelle. Mais à l'époque où
chez
XP
Microsoft.
Était sorti, Eh bien, le truc quand même, c'est que on avait été obligé d'acheter pas mal de RAM, hein, parce que ça ouais, tournait sur ouais. un P2 ouais, 450 MHz, mais ça, mais il fallait minimum 128, voire 256 de RAM.
128, c'était juste pour arriver à lancer XP. 256, c'était pour commencer à l'utiliser, et 512, voilà. c'était pour que ce soit agréable.
Voilà. là, j'ai l'impression que même les machines...
Vraiment sur beaucoup de machines, hein, parce que j'ai réussi à le faire tourner sur un AMD K6 2... ça devait faire du 600 MHz avec 256 de RAM et ça tournait facile.
Attends, t'es en train de me dire.
Du moment que t'as 205.
T'es en train de me dire que grosso modo, Windows 7, là, le dernier truc qui va se. Il tourne sur une vieille bouse.
Ah, ça, j'en sais rien. Je te dis que j'ai réussi à faire tourner XP. 7,
ah,
ça
XP, pardon, dessus. Je croyais que c'était 7 que t'étais arrivé à faire tourner dessus. Je
disais aussi. Tu pourras jamais le faire tourner dessus. Non, mais c'est-à-dire, c'était vraiment un vieil ordinateur. Il y avait même une prise DIN pour le clavier derrière.
Ah oui,
oh, excellent.
La vieille bouse.
Tu utilises un clavier canadien.
C'est terrible.
Ah, c'est violent.
Si tu veux trouver des claviers avec une prise comme ça, tu peux aller dans les écoles primaires de France, ils en ont plein.
Ah bah oui. Oui, mais ils s'en servent aussi. C'est
et
ça,
ils s'en servent. Ils
peuvent. Mais,
oui, là, pour répondre
content.
À la question, Windows 7.
J'étais content avec mon disque dur 3
gigas. Oui, non, mais laisse Mathieu parler, s'il te plaît.
Oui, vas-y, parle.
Windows 7, dû à l'optimisation, va tourner. Quasiment sur pas mal de machines où actuellement il y a XP.
D'accord, il risque de pouvoir tourner dessus. Ce qui est énorme, c'est qu'on va avoir un nouveau système qui va pouvoir tourner là où Vista ne tournait pas.
On va avoir la même chose avec Snow Leopard. C'est ça d'ailleurs l'optimisation.
Attends, non, non, là je suis désolé, je suis obligé de te couper, c'est pas possible que tu dises qu'on va pouvoir faire tourner Snow Leopard sur des machines sur lesquelles on ne faisait pas tourner Léopard, parce que par définition,
ça, avis,
Snow Leopard sera seulement Intel. Donc là, on est dans une configuration où on ne pourrait pas trop savoir si ça pourrait tourner sur une machine moins puissante. Il faudra tester avec des Hackintosh.
En gros, c'est ce qu'ils ont. Ils ont fait la même chose qu'Apple, c'est-à-dire bon, Apple, sauf qu'ils avaient une meilleure base. Ils ont pris leur système actuel et pour une fois, ils ont dit bon, on va pas se concentrer. Disons qu'Apple, c'était un choix. On va pas se concentrer sur les nouvelles d'ajouter des nouvelles fonctions parce que bon, visiblement, on est arrivé à un stade où c'est déjà pas mal. On va se concentrer. Ouais, il y en aura des petites, forcément, il y a toujours des petits...
Ils peuvent pas s'en empêcher.
Ils peuvent pas s'en empêcher. Mais en gros, c'est
les
ça.
Les mecs, on avait dit optimisation, arrêter de rajouter des fonctions.
Et en gros, c'est ça, ils vont se concentrer sur tout ce qui existe déjà. Et que ce soit l'optimisation du démarrage, l'optimisation de la mémoire, de la RAM, des caches. Et il y a pas mal de grosses nouveautés qui vont arriver avec Snow Leopard. Et en fait, Microsoft, par la catastrophe que Vista a été et est encore actuellement... était obligé de se dire bon bah pour le prochain si on fait la même merde que Vista là
on peut mettre la clé sous la porte quoi.
Pas forcément la clé sous la porte
ouais,
mais
ils ont l'air
XP encore mais... pendant 20 ans
oui aussi c'est ça le problème mais c'est vrai que la petite différence c'est que Apple c'était un choix, Microsoft c'était une nécessité quoi.
Voilà, c'est une réelle nécessité.
Et t'as beaucoup de gens qui disent actuellement que les bêtas de Windows 7 sont plus stables que Windows Vista avec toutes les mises à jour hein. Et ouais. J'en fais partie d'ailleurs, parce que j'ai connu Windows Vista avec toutes les mises à jour. Bon, maintenant je l'utilise plus parce que mon Chromebook démarre plus. Mais Windows 7 sur l'iMac, qui d'ailleurs est pas vraiment prévu pour, donc il y a quelques petits problèmes de driver, ça marche dans l'essentiel, est beaucoup plus stable que Windows Vista sur en ce moment, quoi.
Autre nouveauté quand même qu'on a peut-être oublié, c'était le petit côté quand même tactile, c'est-à-dire que c'est la première fois que Microsoft sort à part le XP Tablet Edition, hein, qui sort un truc qui est vraiment dès la base prévu pour le tactile.
Bah, oui, ça va être natif.
Ouais, Vista gérait quand même un peu le tactile. C'est-à-dire qu'en fait, Vista, c'est vraiment ce qu'ils avaient dit, c'était la préversion, quoi. Parce que dans Vista, tu vois déjà des onces de, si je peux me permettre l'expression, de tactile et de reconnaissance vocale, de synthèse vocale, etc.
Mais justement, le tactile, attends, le problème, c'est que toi, tu as pas un ordinateur tactile, donc ça se traduit comment? Comment tu as pu voir que ça sentait le tactile?
Comment j'ai pu voir? Bah, parce qu'en fait, il y a un truc périphérique de stylet reconnaissance tactile ou quelque chose comme ça dans les panneaux de configuration.
Ah, d'accord, c'est pour ça.
Donc c'était déjà prévu, en fait. Après, au niveau de la reconnaissance, je sais pas, j'ai pas pu tester.
Mathieu ?
Oui, c'était juste pour dire qu'aussi, au niveau développeur, tu as accès à plein de... à des morceaux de librairie qui gèrent le tactile, etc. Donc il y a déjà, ouais, c'est une préversion. En fait, c'est ça Vista quand tu testes. Déjà quand tu le testes, tu fais, il manque des trucs, il manque 40 000. Enfin, il y a des, ça colle pas. Quand tu testes Seven, tu fais voilà, ça c'est le voilà, système ça, quoi, du sortier.
Et tu testes la bêta de Seven, tu fais bah voilà, c'est ça le système qu'il nous faut. Comment ça, il est pas fini.
Ça y est, ils l'ont fini.
Ils l'ont enfin fini, mais c'est ça. Mais le pire, c'est que même les sites pro PC, et j'en ai vu plein qui étaient vraiment pro PC, le disent aussi. Ouais. Donc c'est vraiment là, il y a même pas besoin de mettre des gens face à face, c'est que tout le monde est d'accord. Mis à part le commercial chez Microsoft, tout le monde sera d'accord.
Sinon, ça dépend quel commercial de chez Microsoft, hein, parce que les commerciaux de chez Microsoft qui te disent ouais non mais non, prenez pas ça, c'est mieux ce truc qui va sortir après.
Voilà. Mais sinon, justement, en parlant de ce truc qui vont sortir après, il y a quand même un truc moi qui m'inquiète un peu, hein, dans les nouvelles builds qu'on a vu passer, les nouvelles préversions qu'on a vu passer de Windows 7, surtout pour les versions professionnelles. C'est le côté qu'ils ont prévu directement d'intégrer dans une machine virtuelle Windows XP.
Bah en fait, là, ils ont juste.
Déjà que les mecs ils ont pas trop confiance en eux sur ce coup-là, quoi, parce que c'est un peu l'impression que j'en ai, quoi.
C'est peut-être une sécurité quelque part, c'est parce que dans ce cas-là tu peux dire dans ce cas pour macOS Time Machine, c'est qu'ils ont pas confiance en eux, qu'ils ont peur que leur système crash.
Ah mais j'ai pas dit que mon avis était forcément justifié, hein. D'ailleurs j'attends que vous justifiez l'une chose ou le contraire, hein, mais
en fait ils se retrouvent à la même, non pas dans la même, pas, comment dire, c'est une nécessité chez Microsoft comme on l'a dit, mais ils ont juste 9 ou 10 ans de retard quand la première version de macOS 10 a été lancée, ils ont mis un émulateur de Classic 9 dedans.
Oui mais là c'était un émulateur, c'est pas une machine virtuelle complète. Avec une licence, en plus.
C'est juste que maintenant, on peut faire des machines virtuelles, mais voilà, c'est grosso modo, c'est la même chose. Mais c'est une grosse sécurité pour les entreprises. Parce que
c'est le principe. Si le logiciel marche
si
pas
peux,
encore.
Ouais, non,
ça,
mais justement, j'aimerais bien que tu laisses Mathieu développer ce côté entreprise qui est pas inintéressant.
C'est ça en fait le souci chez Microsoft, c'est que t'as des milliers, pour pas dire des millions de boîtes qui ont construit des usines à gaz sur des technologies qui sont totalement de chez Microsoft et qui sont mauvaises, que ce soit les ActiveX ou des trucs comme ça, et que en fait beaucoup de boîtes ne passent pas à Vista, bon déjà parce que c'est un mauvais système, mais risquent de ne pas passer à Seven parce que justement il y a une cassure et qu'il y a plein de boîtes qui seraient obligées de redévelopper des trucs en interne parce qu'ils les ont fait à l'arrache comme des pieds. Et donc Microsoft s'assure à ce côté-là en disant vous pouvez passer à Seven, il n'y a pas de souci, vous pouvez lancer une application, pas avec un émulateur de Windows XP ou de librairie XP, mais vraiment dans Windows XP à l'intérieur de Seven, ce qui fait que là, on risque moins de voir de trucs genre j'achète un ordi avec Seven, je peux le rétrograder à XP, et donc Microsoft, par ce moyen-là, peut se libérer de XP qui eux-mêmes n'en veulent plus.
Ouais.
Donc voilà pour le. Mais en gros, ils ont 9 ou 10 ans de retard.
Ouais, mais quelque part.
Ça, c'était pour la petite sortie en troll.
Mais quelque part, là, tu me parlais d'ActiveX, etc. Ben, j'ai eu je sais pas combien de problèmes d'ActiveX sur mon ordinateur aujourd'hui avec les solutions qu'on utilise là où je suis en stage et que je ne dirai pas à l'antenne. Parce que sinon, ils vont vraiment savoir que c'est la même personne qui glandouillait cet après-midi et qui préparait les sujets. Même s'ils connaissent Pod Radio. Ce qui était d'ailleurs stratégiquement une erreur. Mais
Et le problème, c'est qu'il y a des énormes boîtes, même.
Ah, mais là, c'est une grosse boîte, hein, je peux te dire. Hein. Et on utilise des trucs, c'est une catastrophe. Ça a un graphisme Windows 95, et à mon avis, ça date de cette époque.
Ouais, mais c'est ça le truc. Mais dans les banques aussi, c'est ça. Hein. Faut savoir que
des fois, ils ont même des applications DOS. Hein.
C'est pas des applications DOS, c'est du COBOL. Et si vous recherchez dans Wikipédia le terme COBOL, c'est le premier langage informatique qui a été inventé dans les années 60. Et donc il faut savoir que tout votre argent qui est à la banque
est sur un truc vieux de 20 ans.
Derrière n'importe quelle interface graphique, c'est des technologies qui datent des années des Minitel, du COBOL et plein de trucs comme ça. Et qu'en fait, c'est tellement énorme et que c'est tellement impossible à changer du jour au lendemain que il y a encore des gens, généralement, c'est des personnes assez âgées qui développent encore en COBOL et qui sont payées à prix d'or pour entretenir ces systèmes-là et non pas les redévelopper.
Oui, mais parce que entretenir un système, on va dire que ça coûte peut-être 10% de les redévelopper de zéro.
Ouais.
Et le truc, c'est que forcément, ils se disent bon ben, on le redéveloppe, ça nous coûte 10 fois le prix. Mais ils oublient que ben, c'est vrai que sur les 20 ans à venir, ça vaudra le coup, quoi. Donc du coup, on se retrouve avec des systèmes qui ont 20 ans.
Voilà. C'est exactement ça.
Donc, Alors que d'un point de vue productivité, et c'est ça qui manque un peu, c'est que les entreprises n'ont peut-être pas compris, mais là c'est un autre débat et qui pourrait pas être inintéressant, l'informatique en entreprise. D'ailleurs, tu reviendras hein, pour ça, Mathieu, vu qu'apparemment t'as l'air bien calé sur le sujet. Ça y est, c'est bon, j'en ai engagé un, les gars. Oui, parce que Pod Radio recrute, voilà, c'est placé. Et bien, parce que justement, en informatique, souvent, ils ne voient pas le côté j'améliore le logiciel ou j'améliore le système, ou des fois je passe sous Mac. J'avais vu un article intéressant qui n'était pas forcément des plus justes et des plus vrais, vu que malheureusement on n'a pas pu voir les comparaisons réelles. Mais ils disaient que par exemple, être passé sous Mac, ils avaient augmenté leur productivité de 30%. Mais sans forcément changer radicalement de système. Updater régulièrement les logiciels utilisés ou soit en changer, etc., c'est un sacré bordel, donc faut pas le faire trop souvent, mais ça peut être un gain de productivité qui est pas négligeable.
Et là, je vais prendre un exemple qui va sans doute faire rire, mais quand on le vit, c'est très surprenant. Ouais. C'était dans une très très grande banque française, je crois que c'est même une grosse banque numéro 1 ou numéro 2 européen, donc un gros truc. J'ai débarqué dans une salle où il devait y avoir 20 personnes, ouais. Et c'était il y a pas très longtemps, c'était il y a 3 ans, et en fait ils pointaient des comptes à la règle.
Putain.
Et je suis arrivé là, j'ai fait mais vos tableaux, vous les sortez bien de quelque part? Et il fait oui, on les sort, bah si tu veux je te le file sur une disquette. Donc il m'a donné la disquette, hein. Il m'a donné la disquette et j'ai commencé à pointer les comptes avec la fonction recherche dans Excel, ouais. Ce qui fait que le travail qu'on m'avait donné qui devait me prendre 4 jours à la règle, ça m'a pris 1h30 avec la fonction recherche d'Excel. Donc là, ça c'est un exemple extrême, mais le problème c'est que quand on le vit et qu'on sait que il y a ça dans les grosses boîtes, dans les grosses banques, etc., c'est très surprenant de le voir en vrai parce qu'on se dit c'est pas possible. Rien que d'apprendre aux gens à utiliser l'outil, puis effectivement dans les progiciels faire des interfaces, ne serait-ce qu'un tout petit peu ergonomique, là vous augmentez les gains de productivité, mais c'est radical. Hein,
pour revenir sur ton exemple d'Excel, ça m'en rappelle un qui était à peu près aussi gros. C'était qu'en fait, il y avait un de mes clients de l'époque où je faisais un peu de formation et de dépannage à domicile. Là encore, si tout le monde avait des Mac, je n'aurais pas pu avoir d'argent de poche à ce moment-là. Le truc, c'est que cette personne croyait qu'Excel, c'était un simple, on va dire, présentateur de tableau.
Ouais.
Donc, en fait, la personne imprimait un tableau vide, le remplissait en faisant les calculs à la main et rentrer les valeurs dans le tableau.
C'est énorme.
Ce qui est quand même assez con quand on y réfléchit, mais personne lui avait expliqué que c'était capable de calculer ce logiciel.
Mettons le petit égal.
C'est
wow.
Pas super évident en fait, hein, parce que c'est pas super.
Non mais voilà, c'est ce qu'on dit, c'est que le simple fait d'apprendre aux gens, ne serait-ce que le béaba, mais vraiment la base, tu peux changer une vie.
Je crois que tu l'apprends dans les collèges à utiliser Excel.
Cette personne était une personne de 45 ans qui était dans la génération qui en fait n'avait pas d'informatique à l'époque où ils étaient au collège.
Maintenant avec les nouvelles générations tu l'apprends directement au collège, donc c'est plus simple.
Oui, c'est vrai.
Mais après va dire aux entreprises ne serait-ce que dégager une demi-journée de formation à vos personnes. Ah bah non on peut pas, alors qu'en fait ils feraient juste ça, tu peux augmenter la productivité d'une manière assez hallucinante.
Former tous mes collègues sur les formes automatiques de Word, ça m'économiserait du temps d'ailleurs, hein, monsieur le directeur de là où vous savez que je suis, hein. S'il vous plaît.
Mais sinon une courte anecdote, c'est que j'avais dû faire de la formation à quelqu'un. Ouais. C'est mignon, hein, c'est pas moqueur. Et en fait, on se met devant la machine et je vais on va commencer par cliquer ici, puis je monte du doigt. Et là, la personne a pris son doigt et l'a mis sur l'écran.
Et ben voilà. Et donc justement, on revient sur Windows 7 au tactile.
Voilà, justement,
ça va régler des problèmes.
On avance sur son temps.
Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est intuitif, tu dis voilà, il faut que tu cliques là. Bon, mais pourquoi je peux pas le faire avec le doigt? Voilà. Même si le faire à la souris, je pense que, mais c'est peut-être parce que justement je suis né avec la souris. Je suis né avec la souris, pas loin, parce qu'on était quand même en MS-DOS quand je suis né. Mais l'idée quand même, c'est que moi j'aime pas parce que je cache ce que je veux cliquer. Donc je suis trop vieux pour le tactile. Ou alors le multitouch sur l'iPhone, et encore. Mais bon, enfin messieurs, nous arrivons vers la fin. Et oui, c'est D'accord. La fin des haricots.
Oh non.
Je voudrais vous remercier de m'avoir accompagné, d'avoir bien voulu répondre à mes questions insidieuses, dont j'avais très souvent une partie de la réponse, mais c'est un peu le principe du débat d'Octet. C'est la première émission où le MC joue au con. Voilà.
C'est un quiz en fait.
Voilà, c'est un peu ça. Et je peux vous dire que c'est pas facile. N'oubliez pas, dimanche à 19h30 ou pas loin, vous allez voir sur le site de Mathieu Blanco, macjt.fr, c'est ça?
Macjt.fr. Ou alors sur Pod Radio.
Ou sur Pod Radio, vous passez par la petite image de MacJT qu'on a sur la colonne de droite. Et puis vous suivez ça, parce que c'est donc le compte-rendu hebdomadaire des news du monde Apple et le reste. Bah, un peu comme sur Pod Radio, on est censé nous faire un peu du reste et du Apple, mais on n'en est pas encore là, quoi. Voilà.
On n'y arrive pas.
Et Pop, je te remercie pas, parce que c'est normal que tu sois là, à force.
Bah, oui, évidemment,
Un peu, en plus, ça te fait plaisir, t'avais rien à faire ce soir.
Bah oui, super, bah oui, ouais, moi je viens, de toute façon je ne suis qu'un employé, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, on va pas remercier.
Sinon, vous pouvez aller voir mon site tout jeune, puffmagicfingers.fr.
Voilà, bon, allez, ça c'est fait, il se fait de l'autopromo aussi. Bon, allez, et bien sur ce, voilà, on entend le petit jingle qui annonce la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour un sujet qui n'est pas encore défini, d'ailleurs j'aurais dû le faire. Vous le saurez assez vite sur le site de podradio.fr. Je vous rappelle que vous pouvez aussi écouter Mathieu Blanco et son MacJT sur la radio, podradio.fr, vous allez voir la page radio. Voilà, c'est pas très compliqué, on se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, je vous dis, amusez-vous bien.
À bientôt.